Quand on commence le thème de la grâce, bien-aimé, je ne sais pas si on peut vraiment l'expliquer. Pourquoi ? Parce que la grâce ne s'explique pas. La grâce se vit. Amen. Alors on va essayer de voir quand même dans la parole de Dieu quelques touches du Seigneur au niveau de la grâce. Préparez-vous à cette semaine de jeûne et prière. Nous allons vraiment redécouvrir peut-être des dimensions de la grâce que nous n'avons pas forcément encore peut-être connues parce que c'est quelque chose d'énorme, de très vaste et quelque chose d'encourageant. Et je me réjouis de vivre ces temps de jeûne de prière autour de ce thème merveilleux de la grâce. Merci pour la prière qui est adressée ce matin et qui a rendu gloire au Dieu de grâce. Il n'y a pas un autre Dieu qui puisse faire grâce comme l'Éternel notre Dieu. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu. Tu peux aller dans n'importe quelle religion. Il n'y a aucun Dieu qui s'est donné lui-même pour toi, qui est mort pour toi et qui est ressuscité. Il n'y a aucun autre Dieu que l'Éternel, le Dieu vivant. C'est vite réglé. C'est vite réglé. Il n'y en a qu'un qui est mort et bien plus un qui est ressuscité et qui vit au siècle des siècles. Et si tu veux être attaché à la vie, attache-toi au Seigneur de grâce. Et regardez dans Luc 1 au verset 30, donc j'intitule cette prédication « Vivre par la grâce de Dieu ». Tout est grâce. Regardez, premier chapitre de Luc au verset 30, nous avons la naissance de Jésus. Verset 30, l'ange lui dit, donc à Marie, « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». C'est le premier terme de grâce que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Et ce terme de grâce est lié à l'annonce de la venue de Jésus. Comme preuve qu'il n'y a que ce Dieu qui peut faire grâce et qui envoie son Fils auprès d'une mortelle, d'une femme, auprès d'une jeune femme que Dieu avait choisie. Cette femme pleine de grâce. Elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Regardez, dans cette annonce de grâce, il y a un détail dans ce verset 30. « Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce. » Et ce matin, inscris dans ton cœur, que tu peux être sans crainte parce que tu trouves grâce aux yeux du Seigneur par la venue de Jésus. C'est clair, cette venue de Jésus au travers de Marie a été une venue, bien entendu, pour chacun d'entre nous, parce que Christ est venu pour chacun d'entre nous. Donc, première annonce de ce terme de grâce est accompagnée de la promesse et de ce commandement, sois sans crainte. Toi qui vis dans la grâce du Seigneur, sois sans crainte. Dans la grâce, il n'y a plus de crainte. Lorsque tu vis dans la grâce de l'Éternel, il n'y a plus de crainte. Si tu as des craintes, c'est peut-être parce qu'il faut encore redécouvrir cette dimension de la grâce. Redécouvrir, mais surtout la vivre. La grâce ne s'explique pas, elle se vit. Parce qu'elle est reçue de la part du Seigneur comme don de la part de Dieu. Plus loin, on trouve plus loin de nouveau ce terme de grâce en Luc 2, 40. Et nous avons là le Seigneur qui, bien entendu, grandit en grâce, au chapitre 2 de Luc, verset 40, il est dit « Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Vous vous rendez compte ? Jésus qui bénéficiait de la grâce de Dieu. Est-ce que j'aurais la prétention, moi, dans ma vie, dans le Seigneur, de me priver de la grâce du Seigneur parce que Jésus, tout en grandissant, il y avait la grâce de Dieu qui reposait sur sa vie, la grâce de Dieu. Et ce passage m'enseigne. Ce passage me rappelle que j'ai aussi besoin d'avoir la grâce de l'Éternel sur moi, parce qu'elle reposait sur Jésus, petit enfant, il grandissait dans la grâce de Dieu. Et c'est une qualité que Dieu lui donnait, cette grâce du Seigneur était sur lui. J'ai besoin aussi, Seigneur, que ta grâce soit sur moi. Amen. Un peu plus loin, au verset 52, toujours au même chapitre. Troisième mention de ce terme de grâce. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu. On rajoute un élément ici. Et devant les hommes. Ça, c'est important. La grâce t'amène dans cette relation personnelle avec le Seigneur, parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés, on le verra tout à l'heure. Mais cette grâce ne sert à rien si tu as trouvé grâce devant les yeux de ton Père. Tu dois aussi trouver grâce devant les hommes. Et on verra comment trouver grâce devant les hommes. Mais c'est quelque chose de lié. Vous voyez, ces textes sont tellement forts. On passe peut-être dessus, où il y a un sens de Jésus, on connaît, pas de soucis, etc. Mais quand on redécouvre ces textes, et que je dois que je aussi vraiment, pour ma part, trouver cette grâce devant les hommes. Et c'est parce que moi, peut-être, je vais aussi faire grâce. Parce que la grâce habitait la vie de Jésus. Et moi qui suis habité de la nature de Christ, en me donnant au Seigneur, je dois aussi trouver grâce devant les hommes. Alors on ne va pas jouer aux petites courbettes, bien entendu, devant les hommes, vous comprenez ce que c'est. Mais c'est une question de relation, c'est une question de faire grâce. C'est une question que Christ soit vu dans ma vie parce que je me dis enfant de Dieu, parce que j'ai reçu Christ comme mon Sauveur et Seigneur, et parce que je suis un porteur de Christ, donc un porteur de grâce. Amen. Ô Seigneur, merci pour ta venue parmi nous, merci de nous enseigner dans cette dimension de grâce. Un petit peu plus loin, Luc 4, verset 22. Luc 4, verset 22. Nous sommes là dans cette prédication de Jésus à Nazareth. On prend le verset 20. Allez, verset 18. Non, allez, depuis le début. Verset 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Et sa renommée se répandait dans toute la région. Pourquoi ? Parce qu'il était rempli de grâce. Verset 15. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, entra selon la coutume dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs, amen, la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et pour proclamer une année de grâce. » La proclamation d'une année de grâce du Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut proclamer une année de grâce sur ta vie, amen. Et dès maintenant, dès le 24 septembre, proclame une année de grâce de la part du Seigneur sur ta vie. Parce que c'est l'annonce de la bonne nouvelle, c'est l'annonce de l'évangile. Et cette annonce de l'évangile est accompagnée de la grâce du Seigneur sur ta vie. Amen. On a vu qu'il y a la grâce des hommes, on espère en avoir un petit peu. Mais ce qui est important sur ta vie, c'est d'avoir cette proclamation de la grâce du Seigneur et que cette année ne dure pas seulement une année, mais toute ta vie. Amen. Parce que dans le Seigneur, il y a cette année de grâce. Puis il roula le livre, en d'autres termes, la messe est dite, parce que tout est dit, n'est-ce pas, il faut le vivre maintenant. Il le remit au serviteur et s'assit. Imaginez la scène, il annonce cette grande nouvelle, il remet le rouleau, il s'assoit et il attend. Parce que cette proclamation doit produire quelque chose. Tout est dit, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que je fais de cette année de grâce qui est proclamée sur ma vie ? Qu'est-ce que je fais de cette personne de Jésus qui est habitée de la grâce de Dieu, mais qu'est-ce qu'elle va impacter dans ma vie ? Alors il s'assoit, Jésus le regarde. Et bien sûr, il y a tous les yeux qui sont fixés sur lui. Alors il se met à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Et elle est encore accomplie cette année de grâce. Tu as besoin de rentendre ça aujourd'hui. Cette année de grâce veut pleinement s'accomplir dans ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui pour toi c'est un jour nouveau dans le Seigneur. Parce que tu es à l'aube d'une année de grâce dans ta vie. Regardez, tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph ? Parce que ça commençait un petit peu quand même à... Oui, je veux dire, n'est-ce pas le fils de Joseph, n'est-ce pas parmi nous, etc. Pourtant, des paroles de grâce sortaient de sa bouche. Et Jésus aura toujours des paroles de grâce. Amen. Il fait grâce. Si tu as besoin de grâce dans ta vie, on prêche un peu l'évangile ce matin, mais c'est bon de le réentendre. Il n'y a que Jésus qui peut proclamer des paroles de grâce dans ta vie. Il a des paroles de grâce, il a des paroles de bénédiction, il a les paroles et la grâce de pouvoir et de vouloir te pardonner pleinement, amen, de vouloir te guérir, de vouloir te délivrer parce que c'est la parole incarnée. On vient de le dire, il l'a proclamé dans la synagogue, on le reproclame aujourd'hui dans l'église. Jésus a été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a été envoyé pour proclamer aux captifs, là, dites-le, la délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres, amen, les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Vous vous rendez compte, le programme de grâce qu'il y a au travers de Jésus lorsqu'il proclame ces choses sur ta vie. Ta vie doit changer. Ta vie peut pleinement changer. Et grâce. Grâce au Seigneur. Grâce au Seigneur. Il y a un chapitre par excellence qui fait le contraste, on est obligé de le voir maintenant dans les fondements qu'on vient, et j'espère, d'avoir posés. Regardez le chapitre 5 de Romains, l'épître de Paul aux Romains, qui contraste le péché et la grâce. Et c'est un contraste très fort dans ce chapitre 5. Parce que j'espère que vous êtes tous d'accord avec moi, nous sommes nés pécheurs. Nous sommes pécheurs par nature. Si on doute encore, je pense que le petit mot d'un petit de 2 ans va être un premier mot. Il ne va pas dire gentiment « oui maman » ou « oui papa », mais il va simplement dire « no, no, no ». Non. Donc il s'affirme par une opposition. Mais on voit déjà que dans la nature de l'enfant, il y a une nature pécheresse. Je suis désolé de décevoir les nouveaux parents ou les parents en devenir. N'allez pas faire autre chose, bien sûr, que d'enfanter un magnifique chérubin. Mais c'est un chérubin pécheur. Voilà le programme. C'est un peu dur, mais c'est la réalité. Tout chou, tout mignon. C'est vrai, ça dort beaucoup les premiers mois. Ensuite, quand ça commence à se lever, eh ben, il faut y aller. Hein? Bienvenue dans la famille, c'est magnifique. Donc, nous sommes d'accord ce matin que nous sommes nés pécheurs. Je pense qu'on doit se rappeler cela. On ne peut pas se sortir de son péché par soi-même. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est le drame de bien des religions. C'est le drame de bien des religions. On essaye par ses œuvres, par sa force, par le fait de vouloir racheter ou je ne sais quoi, ce n'est pas possible aux yeux de Dieu, de ce Seigneur que nous avons proclamé ce matin dans l'Assemblée. Ce n'est pas possible par nos œuvres de racheter quoi que ce soit notre nature pécheresse, parce que de toute manière, nous sommes livrés malheureusement au péché. Ça, c'est clair. Et c'est quand tu te sens pécheur, désespéré, quand tu commences à penser peut-être un petit peu à qu'est-ce qu'il y a après la mort. Quand peut-être il y a des moments difficiles, il peut y avoir des tragédies, il peut y avoir la perte de quelqu'un, tu te dis, mais attends, il commence à y avoir des questions existentielles dans ta vie qui se posent. Et je pense que c'est bon cela. Parce qu'être dans le déni tout le long, ce n'est pas possible. On ne peut pas être dans le déni parce que le déni va une fois te rattraper, tu verras. Parce qu'il y a des réalités de la vie, et je l'ai déjà dit ici, ce n'est pas une promenade de santé. Nous sommes heurtés. Nous sommes tous touchés par quelque chose dans nos vies. Nous avons tous été blessés. Même un enfant, dans ses 2 ans, apprendra à marcher en tombant. C'est aussi une leçon de vie. Il va se râper ses genoux, il va se faire mal, il va pleurer. Donc on sait que la souffrance, on sait qu'il y a des difficultés qui sont là dans nos vies. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense qu'on est aussi tous d'accord ce matin sur ce point. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Et ce qui est formidable, c'est ce chapitre 5, et je vous le conseille peut-être en relecture, il commence par ce verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est un verset tellement fort. La justification au niveau de ton péché, de ta nature pécheresse, ne peut être faite que par Jésus-Christ qui a payé le prix à la croix. Ce n'est pas possible autrement. C'est un acte de foi. Tu es justifié par la foi en Jésus-Christ et tu es délivré de la nature pécheresse, ou en tout cas du péché, de la condamnation du péché sur ta vie. Et ça, c'est la puissance de l'évangile, c'est la puissance de l'action de Christ. Nous sommes justifiés. Voyez, Paul, là, il le met au passé, étant donc justifié par la foi. C'est une justification qui est acquise. Tu dois le prendre par la foi. Nous avons la paix. Donc, la justification par la foi est accompagnée par la paix dans ton cœur. Est-ce que tu as la paix dans ton cœur? Est-ce que tu es en paix par rapport à ce qui se passe? Nous avons passé le 23 septembre. Je dis ça comme ça parce que c'était un petit peu une date sensible. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut voir sur Internet. Nous sommes le 24, nous sommes encore là, merci Seigneur. C'est un jour de grâce. Il prolonge les jours pour notre repentance, afin que le plus grand nombre vienne au Seigneur, afin que l'Évangile soit prêché, afin que l'Évangile soit proclamé, afin que l'Évangile soit vécu, afin que l'Évangile transforme encore des vies. Alléluia, Jésus revient bientôt, c'est vrai. Es-tu prêt? Es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu? Nous qui sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Et ça, c'est une œuvre de grâce. C'est une œuvre de grâce. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Une fois que tu as reçu la grâce, nous demeurons dans cette espérance ferme. Nous devons garder ce cadeau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et de le garder ferme, parce qu'il y en a un qui va te le piquer, ce cadeau de la grâce. J'aime mieux dire, il n'est pas content le diable. Il ne sait pas ce que c'est que de faire grâce. Le diable n'a pas de sentiment. Aucun sentiment. Parce qu'on se demande comment est-ce qu'il pourrait faire ce qu'il fait. Je veux dire, ce qui se passe dans le monde, c'est absolument effroyable. Il n'y a aucune émotion, il n'y a aucun sentiment, c'est un destructeur. Il est là pour détruire les vies. Et quand on parle de la grâce, quand on parle de la grâce qu'il y a en Dieu, il ne supporte pas. Et c'est pourquoi Paul nous recommande de garder ces choses dans la fermeté que nous avons dans le Seigneur. Nous demeurons fermes dans ces choses et nous pouvons nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu à venir. Amen. Regardez, il continue verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Ça, c'est un petit peu plus difficile, c'est vrai. Verset 4, la persévérance, une fidélité. Et la fidélité éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Regardez le terme de grâce. Je ne vais pas être trop technique ce matin. Charis vient d'un verbe. Kairo, se réjouir. Donc la grâce, quand je l'ai dit, elle ne s'explique pas. Elle se vit. Parce que la grâce est constituée de ce verbe se réjouir. Il y a ce terme de joie. Et ça m'interpelle. Parce que ça fait quelques années quand même que je suis enfant de Dieu. Est-ce que je me fais aux choses de Dieu? Parce qu'on peut se faire à la bonté de Dieu, on peut se faire à la fidélité de Dieu, on peut se faire à la grâce de Dieu, on peut se faire à la bienveillance de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, est-ce que ma table est devenue à ce point lassante pour vous, qu'il est dit dans les prophètes? Est-ce que la grâce de l'Éternel me donne d'avoir toujours cette joie du salut, cette espérance, parce que c'est un verbe à la base qui doit me mettre en action, amen, et qui doit me faire vivre de la grâce qui me réjouit dans le Seigneur, parce que je suis gracié. Il y a deux catégories. Il y a les pécheurs non graciés, parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ, ils ne veulent pas vivre avec lui. Et il y a les pécheurs graciés. Et normalement, dans le camp des pécheurs graciés, ça devrait se voir. Vous êtes d'accord? J'ai besoin de redécouvrir peut-être ce premier amour, ce qui m'anime dans cette relation avec mon Dieu, qui est tellement extraordinaire, qui m'a fait grâce, qui m'a pardonné, alors que j'étais non aimable. Qui aimerait un pécheur? En plus, qui ne sont peut-être pas bons. Il faut qu'on soit rejoint dans notre humanité. Et quand on redécouvre cette dimension de la grâce, c'est vrai que la grâce, on va le voir durant cette semaine, c'est un terme qu'on utilise souvent. Des fois, on prend peut-être ce réflexe et dans la salutation. Voilà, bonjour, comment allez-vous? Ça va par la grâce? Oui. Est-ce que tu le dis vraiment du fond de ton cœur? Est-ce que tu intègres encore cette valeur de la grâce? Parce que finalement, la grâce, vous l'avez compris, c'est un cadeau immérité. Tout ce qu'on mérite, c'est la mort. Tout ce qu'on mérite, je ne veux pas faire peur ce matin, mais il faut qu'on en parle quand même, c'est l'enfer. C'est le feu éternel. Il n'y a que Christ qui puisse pleinement te délivrer de l'enfer. Parce qu'il y a cette abondance de grâce dans sa vie. Parce qu'il est venu par la grâce de Dieu et parce que dans sa bouche, des paroles de grâce sont prononcées sur ta vie. Mais on devrait tous courir maintenant dans les bras de Jésus. Et je me réjouis de l'éternité que Dieu a prévue pour qu'on puisse aller de grâce en grâce dans sa présence et l'adorer. Je dis merci Seigneur d'avoir prévu l'éternité pour te louer, pour t'adorer. Parce que toute l'éternité, Seigneur, ne suffira pas pour te remercier pour toute la grâce que tu as eue pour moi, Seigneur. Pour ton Église et pour les hommes. N'endurcissons pas nos cœurs. Aujourd'hui est encore le jour du salut, non seulement pour recevoir la grâce, mais aussi pour faire grâce. Amen. Verset 12, chapitre 5. C'est pourquoi de même que par un seul homme, on en a parlé tout à l'heure, le péché est entré dans le monde et par le péché ainsi la mort, ainsi que la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Il n'y a pas que moi qui le dis, la parole de Dieu le dit aussi heureusement. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Verset 13, car jusqu'à ce qu'il y ait la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Autrement dit, quand on te dit, c'est pas bien de faire ça, tant que tu le fais, tu ne sais pas que c'est pas bien. La loi est un révélateur du péché. Tant que tu dis que ceci n'est pas bien, tu ne le sais pas. Et c'est pourquoi Dieu a donné la loi, pour montrer au peuple, attention, je suis un Dieu saint, et pour vous montrer que je suis un Dieu saint et que vous êtes pécheur, la loi est là comme révélateur de péché. On ne peut pas être justifié par les œuvres, on ne peut pas être justifié en respectant les œuvres de la loi, parce que la loi est un révélateur de péché. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mais il y a la grâce. Il y a la grâce du pardon. Il y a la grâce de pouvoir marcher par la foi. Et lorsque je suis renouvelé du Seigneur dans cette nature qui m'habite, alors je vais pratiquer des œuvres dignes de la foi qui m'habite. Et ça, c'est exactement Jacques qui rejoint Paul. On le verra tout à l'heure, je ne sais pas si on aura le temps. C'est vrai que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. Mais par la foi, d'accord ? C'est par la grâce, par la foi, que nous sommes sauvés, pas par les œuvres. Et Jacques 2 dit, mais montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je vais te prouver que j'ai la foi par simplement les œuvres de justice qui vont s'accompagner, d'accord ? Ça c'est aussi important, tout est grâce dans notre vie. C'est une grâce de l'Éternel de pouvoir marcher avec lui et de pratiquer ses œuvres parce que nous avons été sauvés. Pas pour être sauvés, parce que nous avons été sauvés et que nous avons été justifiés par la foi. Amen. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, verset 14, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit. Et là, c'est le terme de charisma. Ce qui a donné les dons spirituels. Vous voyez ? Et c'est étonnant parce qu'on parle de cette grâce dans le contexte d'un péché qui devait être pardonné. Et on retrouve ce terme de charisma, de don spirituel, de don de grâce, dont nous allons être ensuite, par la venue du Saint-Esprit, habités. Ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être aussi réétudier. Mais c'est dans le contexte du pardon du Seigneur qu'on trouve en fait cette dimension de ce charisma ici. Mais il n'en est pas du don gratuit, charisma ici, comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, les hommes en grand nombre sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur le grand nombre. Il y a ce don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ. Tu veux être gracié ce matin, la parole de Dieu dit clairement que la grâce vient d'un seul homme, Yeshua, Emmanuel, Jésus-Christ. Je propose une parabole maintenant. vu que nous sommes là pour vivre la grâce du Seigneur. Je pense que la grâce fait automatiquement contraste, comme Paul l'a fait dans ce chapitre extraordinaire de Romains, avec le péché. Je pense qu'il nous faut comprendre cette dimension, mais dans un contexte que nous connaissons tous, et je pense que nous serons tous concernés par ce chapitre 18, où on trouve ce serviteur impitoyable. Moi, j'aime bien le cache la parole de Dieu. C'est vraiment cache. Tu ne peux pas te détourner. C'est vraiment dit d'une manière cache. C'est l'amour dans la vérité. Et j'aime beaucoup cela. Et on va lire cette parabole. Et nous allons comprendre la dimension de la grâce qui va aussi avec le pardon dans le cadre de la faute, alors que nous sommes tous fautifs. Et je pense que c'est la parabole qui peut expliquer au mieux en fait ce que c'est que la grâce. Verset 21, notre Pierre est là. Il s'approche de Jésus et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi jusqu'à 7 fois ?» C'est déjà pas mal, hein, Pierre. Imagine-toi déjà de pardonner 7 fois la même personne. Tu commences un petit peu à en avoir marre. T'as pas encore compris? Tu l'accueilles toujours avec un sourire, mais le sourire commence un petit peu à se coincer, n'est-ce pas? Vu que nous sommes graciés, que nous sommes habités de la joie du Seigneur. Vu que ça vient de ce verbe kairo, de se réjouir. Non, mais voyez un petit peu. Nous sommes limités, n'est-ce pas? Mais Pierre, il se donne la peine, là. Il se donne beaucoup de peine, là, Pierre. Il s'attendait, oui, c'est bien, moi j'en ai peut-être 3 fois. 7 fois, Pierre. Il s'attendait à cela de la part de Jésus, peut-être. C'est déjà pas mal, 7. En plus, c'est un chiffre parfait. Mais regardez, Jésus, il rajoute une couche, là, Jésus, vraiment. Hein. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Non, attendez, jusqu'à, je me trompe même, 70 fois 7 fois. Il y en a des 7, là, hein. Il y en a plusieurs, là. Tu veux être bon, Pierre, dans les chiffres divins, c'est bien. Ben moi, je vais t'en rajouter une bonne couche, là. D'accord? Comme ça, tu verras ce que c'est. C'est un petit peu cru ce que je dis, mais c'est ça, le Seigneur. Il nous provoque. Parce qu'on a besoin de lui. Au secours, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas y arriver. 7 fois, c'est déjà pas mal. Mais quand c'est, ça fait combien? 490 et quelques, je ne sais plus combien. On ne les compte plus. J'ai plus assez de doigts sur ma main, etc. On ne les compte plus. Non, mais c'est à l'infini. Et pour te prouver que c'est à l'infini, Pierre, je vais te dire quelque chose. Et c'est là que ça commence. Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amenait un qui devait 10 000 talents. J'ai fait le calcul. C'est des milliards. Même les loteries, les euromillons et tout, c'est peanuts. Non mais sérieux, je ne pense pas que c'est possible de rembourser cette dette. C'est énorme, mais énorme, c'est énorme. C'est énorme. Vrai, ça, il faut aussi qu'on le... C'est énorme. Impossible lors de la vie. Je ne pense pas que Bill Gates et toute la compagnie pourraient, enfin je ne vais pas le nommer. Ce n'est pas possible. Ça se chiffre en 0,0000 l'un après l'autre. C'est un défilé de zéro. Vous voyez, on a aussi là. Comme il n'avait pas de quoi payer, on ne va pas le blâmer. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on supplie. On supplie, mais avant, son maître ordonne de le vendre, lui, sa femme. Imagine-toi, vendre ta femme, qui j'espère encore aujourd'hui, n'a pas de prix. Vous aurez bien entendu quelques amens là. Amen? Hein? D'accord? Il vend sa femme. Ils vont mes enfants. Non, mais on rigole, mais imagine-toi, il n'y a pas de prix. C'est pour montrer le prix que c'est. J'espère que ta femme a encore du prix, tes enfants aussi. Non, mais c'est ta chair, c'est ce que tu as aimé, c'est ce que tu aimes encore, j'espère. C'est ce que tu aimeras. C'est ta postérité, c'est toi, c'est tout. C'est voilà. Et tout ce qu'il avait, bon, à part, je veux dire, quand on commence à te vendre ta femme et tes enfants, je dis, tu peux tout prendre, quoi. Ça ne va pas faire une différence. Et de payer la dette. La parole de Dieu est gentil là, moi j'aurais mis, et de commencer à payer la dette. Mais bon, on ne va pas trop insister, hein, d'accord? Verset 26. Le serviteur se jeta à ses pieds, se prosterna devant lui et dit, « Prends patience envers moi et je te paierai tout. » Touché de compassion. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est la grâce. touché de compassion. Ton salut est pleinement valable parce qu'un jour, Dieu a été touché de compassion devant ton désespoir, devant l'impayable. C'est ça l'évangile. Nous devons retrouver ces valeurs-là. Ému, touché de compassion. Ça, c'est Jésus qui était ému et touché de compassion devant les foules. Parce que les foules étaient sans berger, elles avaient besoin d'un berger. Elles avaient besoin de compassion. Touché de compassion. Le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Non, mais imagine-toi le truc. Imagine-toi le soulagement. Ce qui se passe là. Je suis libre. Mais pas si que ça, tiens. Parce que regarde la suite. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers. Là, on peut parler de peanuts, mais rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Il le saisit, le serra à la gorge en disant « Paye ce que tu dois ». Mais regardez le ridicule de cette parabole, c'est épouvantable. Verset 29, son compagnon se jeta à ses pieds, l'implorant en disant « Prends patience envers moi et je te paierai ». L'autre « Tu verras ce que je vais te faire ». Verset 30, mais lui ne voulut pas, il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Imaginez-vous cette misère. Verset 31, ses compagnons, voyant ce qui se passait, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui était arrivé. Ben, merci pour ces rapporteurs. Pour une fois, ce sont de bons rapporteurs. Pour une fois. Ah, moi, je suis content de ces rapporteurs-là. Il y en a d'autres. Mais là, alors là, il ne l'a pas volé, comme on dit. Franchement, il y a justice qui est en train de se faire. Alors le maître le fit appeler et lui dit, méchant serviteur, vous voyez, cet homme était méchant parce que dans son cœur, la grâce de l'Éternel et la compassion de Dieu n'avaient pas transformé sa vie. C'est pour ça que la grâce doit être vécu. C'est pour ça que nous devons être touchés par l'amour de Dieu, cette compassion extraordinaire. Sinon, ce n'est pas possible. On t'a fait grâce, mais tu ne vas pas faire grâce. Je dis, c'est vraiment une parabole extraordinaire pour saisir davantage ce qu'il en est de la grâce. Méchant serviteur, parce que tu as un cœur mauvais, parce que tu as un cœur endurci, tu es un méchant serviteur. Et il lui explique. Il doit lui expliquer. Il ne l'avait pas vécu. Il lui explique. Mais les explications, ben c'est un peu tard. Quand on commence à devoir expliquer. Vous voyez, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais imploré. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service, en plus, ton compagnon de service, ton pote, comme moi je pitié de toi alors que je n'étais pas ton pote. Mais j'étais ton maître. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ça, c'est l'éternité. Impayable. Il ne pouvait pas le remettre au bourreau. Impayable. Ainsi fera mon Père céleste pour vous si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.